Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net et animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. 1,
2, 3. Production 807 2025, take 8, Reckless, part 2, double channel setup.
Au sommaire aujourd'hui, une spéciale sortie bouquin durant laquelle nous reviendrons en compagnie de son auteur Pascal Français sur Kemp volume 3, Soap Opera et Kemp Gay paru chez Marais Éditeur. En sa compagnie, nous évoquerons également le film Harlow la blonde platine, un film de 1965 signé Gordon Douglas et sorti en Blu-ray chez Carlotta Film. Nous reviendrons également sur La Maison d'Emma Becker, éditée par Flammarion, et surtout sur son adaptation cinématographique au titre éponyme, réalisée par Anissa Bonnefond et qui est éditée par Réseau Film et distribuée par ESC Distribution. Nous terminerons ce tour d'horizon des sorties bouquins avec quelques bandes dessinées, à savoir Ice Cream Man de W. Maxwell Prince, Chris O'Halloran et Martin Morazzo, et ça c'est chez Huggin and Munin. Nous parlerons également de Not All Robots de Mike Deodato Jr., Mark Russell et Lee Loughridge, qui est paru aux éditions Delcourt. Et on fera un petit détour en compagnie de Ed Brubaker, Marcos Martin et Munza Vicente pour évoquer une BD sortie chez Glénat, le tome 1 de Friday. L'équipe de Culture Prohibée remercie Julia Bellorger, Lucie Mottier et Pierre-Julien Mareste pour leur aide sur cette émission. Nous vous rappelons d'ailleurs que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, disponible sur le site de l'éditeur TheExtasyOfFilm.com, sur celui des films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr, et chez tous les bons libraires. Pour aborder les dernières sorties bouquins, je suis accompagné de Damien Demey, dit la Bête Noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées, également créateur du podcast Écho du Temps, disponible sur PodCloud. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Mon cher Damien, tu es venu avec quelques comics, hein, comme souvent, et tu as décidé aujourd'hui de nous parler d'un comics qui augure en fait d'une série de comics horrifiques à apparaître chez Huggin and Munin, à savoir Ice Cream Man.
Ice Cream Man, qu'est-ce que ça raconte ? Toutes les souffrances ont un parfum différent. Avec sa camionnette si particulière et la mélodie qui l'accompagne, il va de rue en rue. Voici venir le marchand de glace. Quelle saveur choisir aujourd'hui ? Chocolat, vanille, overdose, meurtre, suicide ? Sur son passage, il ne découvre ou ne provoque que désolation, souffrance et terreur. Qui est-il vraiment ? Ami ou ennemi du genre humain ? Dieu ou démon ? Personne ne le sait encore. Mais ce qui est certain, c'est qu'il est capable de changer n'importe quelle vie en un claquement de doigts ou en une boule de glace, souvent pour le pire. Alors, ce travail est réalisé par W. Maxwell Prince, qui est le scénariste. Au dessin, on retrouve Martin Morazzo. Et la couleur, c'est Chris O'Halloran. Ice Cream Man est plus une anthologie d'horreur. Alors certes, on retrouve le vendeur de glace et sa camionnette à tous les chapitres, mais sa présence est plus ou moins indépendante de toutes les histoires, sauf le dernier chapitre. Ce qui fait qu'il y a un peu un style métal hurlant, voire un côté Hellraiser dans ses personnages, Notamment, on a une histoire avec deux toxicomanes en quête d'une nouvelle dose de drogue, ou l'histoire d'un musicien qui est l'homme d'un seul succès et qui est à la recherche d'un nouveau morceau qui fera sa gloire. Les histoires sont sombres et fun. Tous les personnes sont habitées par des démons, et quand le marchand de glace passe, au final, il ne fait que révéler à eux la saveur de leur souffrance. C'est un comics qui combine plein de super histoires avec un dessin qui est vraiment au top et qui fait énormément pour la narration. Ce qui est assez normal pour l'horreur, mais la particularité au niveau du dessin, je trouve que c'est sur le corps des personnes où il met souvent des personnes, enfin on ressent leur addiction, leur vieillesse ou bien leur terreur. La seule déception que j'ai, je dirais, c'est le choix de la couverture, parce que je trouve qu'elle exprime le moins cette étrangeté entre l'innocence infantile autour du marchand de glace et l'horreur des histoires qu'il y a dedans, contrairement aux autres couvertures que j'aime énormément, notamment celle avec les toxicomanes. On voit juste un des personnages qui tient une boule de glace avec des seringues dedans, que j'aime énormément, même si elle est horrible. Néanmoins, grâce à ça, j'ai pu découvrir les éditions Hugging et Munning, qui fait une édition très belle et je trouve très élégante. Et je ne pourrais trop que vous conseiller ce tome 1 de Askriman, fait par Maxwell Prince, Martin Morazzo et Chris O'Laran.
J'ajouterais, mon cher Damien, que le trait de Morazzo évoque quelque peu le trait d'un des maîtres de l'horreur venu du pays du soleil levant, à savoir Junji Ito. Voilà, et on retrouve vraiment, et en particulier d'ailleurs sur la couverture, hein, les traits particuliers de l'auteur de tellement de super mangas que, bon voilà, entre Jio, Tomie, Spiral, enfin bon voilà, des classiques du manga horrifique. D'ailleurs, on vient de sortir un artbook de Junji Ito que je vous conseille vivement. Alors moi, je vais rester dans les comics, par contre, chez Image Comics, pour vous parler d'un comics qui, au départ, était en fait était une BD numérique. C'est une BD numérique, elle avait gagné le Eisner Award, donc c'est pas n'importe quoi, de la meilleure BD numérique en 2021. Et Image a décidé de le publier du coup en album. Et Glénat a pris le relais et a décidé de publier en France cette série qui s'appelle donc Friday. Friday, c'est très simple, hein, ça se passe dans la petite ville de King's Hill. Forcément, King's Hill, ça évoque notre ami Stephen King, évidemment. Et c'est l'histoire de Friday Fitzhugh. C'est pas facile à dire, hein, quand on n'a pas l'accent anglais. C'est écrit Fitzhugh. Voilà, qui est une jeune femme de 18 ans et qui revient dans cette petite ville pour fêter Noël avec sa mère et sa tante, qui est une... C'est la jeune fille, en fait, un peu garçon manqué, qui en fait est très jolie, mais qui est un peu garçon manqué et qui aime bien faire ce que les garçons font habituellement. Voilà, en tout cas, dans la... parce que, bon, je crois pas au truc genré, moi, hein, mais en tout cas, dans la représentation qu'on a des femmes dans la fiction américaine, d'ailleurs, Ed Brubaker s'amuse à jouer, hein, avec les clichés, voilà, puisque c'est... J'ai dit le nom, le scénario, c'est Ed Brubaker, mais je vais y revenir après. Et elle en profite aussi pour retrouver son meilleur ami d'enfance, Lance Jones, qu'elle avait quitté donc pour aller au lycée. Et quand il était gamin, ils étaient inséparables. Lui, c'est pareil, c'était un peu le gamin dont personne... Enfin, il n'avait pas beaucoup de potes. Et qui était en fait passionné d'énigmes. Et ils ont passé toute leur enfance à résoudre des énigmes, sans jamais d'ailleurs avoir de relations, en fait, entre eux, de relations de petit ami à petit ami. Voilà, ils sont restés simplement... amis, même si ça c'est un point important dans l'histoire, puisque sinon je ne vous en parlerai pas, parce que ça trotte encore dans un coin de la tête de chacun de ces deux protagonistes. Alors lui c'est un petit génie, hein, c'est un petit Asperger en fait en quelque sorte, hein, à peine revenu en fait dans cette ville, que Friday va se retrouver en fait embarqué de nouveau avec Lance dans une histoire un peu spéciale autour du mythe de la Dame Blanche. Évidemment, cette BD au trait un peu particulier, hein, c'est Marcos Martín au dessin et Munza Vicente à la couleur. On a un trait vraiment atypique dans l'univers du comics, qui peut plus évoquer la BD européenne, d'ailleurs plus la ligne claire, que les traditionnelles représentations que l'on se fait, enfin, même si on a beaucoup évolué ces dernières années, dans les comics il y a aujourd'hui une grande variété de styles de dessin, mais disons qu'on est loin des canons typiques à la Marvel, voilà, les super-héros en collant moule burne. Là on est dans autre chose, qui n'est pas un trait réaliste, hein, qui est un trait un peu haute d'ailleurs. Petite pointe d'inspiration de Will Eisner, hein, quand même, aussi à chercher. Le scénario, enfin, la BD va vous captiver, vous avez l'impression de regarder un film, c'est incroyablement bien mis en scène. On peut parler de mise en scène. Pourquoi ? Bah parce que derrière au scénario, c'est Ed Brubaker, excusez du peu, le meilleur scénariste, en tout cas quand il s'agit de faire des polars en BD. Ça, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans l'émission. Il a des séries toujours en cours, enfin Criminal, c'est plus ou moins en cours parce qu'il y a des spin-offs de Criminal qui sortent régulièrement. Et puis il y a Reckless, qui mélange en plus le polar et la cinéphilie, puisque son héros vit dans un vieux cinoche délabré. Voilà, enfin bref, je ne vous en dis pas plus, il faut lire ça. Ces deux BD-là sont chez Delcourt. Hein. Tous les polars sont chez Delcourt. Et récemment, d'ailleurs, il y a eu une réédition chez Panini de l'intégrale de Sleeper. Alors réédition, plutôt édition originale, parce qu'en fait, Sleeper s'était paru, mais ils avaient fait publier il y a des années de ça, quelques épisodes de la série. Là, c'est une vraie intégrale en deux volumes. Voilà. Et c'est assez génial. Et donc, Friday, c'est assez étonnant, c'est assez génial, parce que c'est une BD plus pour les... qui va un peu chercher du côté des ados, c'est plus étonnant pour Ed Brubaker, mais on reste dans son domaine de prédilection, celui où il s'éclate le plus, c'est le polar. Donc je vous conseille vivement Friday, c'est que le premier tome, hein, qui est paru chez Glénat. On a très hâte de lire la suite, puisque à la fin de ce premier tome, eh bien évidemment, tout cela prend une toute autre tournure, la BD devient beaucoup plus adulte, donc on a très hâte de lire tout ça. On va rester dans la BD avec Damien, qui va nous parler de... Alors là, on va aller tout à fait dans la SF, hein, de Not All Robots, qui est donc paru chez Delcourt, on parlait à l'instant des éditions Delcourt, qui est signé Mike Deodato Jr., Mark Russell et Lee Loughridge. Écoutez Culture Prohibée.
L'histoire de Not All Robot est extrêmement intéressante, je vais vous la dire tout de suite. En 2056, les robots ont remplacé les humains sur le marché du travail. La coexistence est difficile entre les robots et les 10 milliards de terriens. Chaque famille humaine dispose d'un robot dont elle dépend entièrement. Le robot des Walter, Razorball, passe de façon assez inquiétante tout son temps libre dans le garage à ruminer contre les humains, dont sa famille d'accueil. Je vous rajoute en plus ce que j'aime beaucoup et qui est écrit derrière la BD. Bienvenue dans le futur humain, un futur où plus personne n'a besoin de vos services. Dégagez, vous êtes obsolète. Alors, c'est une BD de SF avec une très belle couverture qui reprend le American Gothic de Grant Wood, qui est un des tableaux les plus connus aux États-Unis et dans le monde pour parler des États-Unis, mais avec des robots à la place des humains. Le dessinateur, du coup, c'est Mike Deodato, qui a beaucoup travaillé pour Marvel, dont les Dark Avengers, et qui a un style de dessin extrêmement cool, qui me rappelle un peu plus... la BD d'horreur infidèle qu'une BD de science-fiction, mais qui fait très bien le travail. Et Lee Loughridge qui s'occupe de la couleur. Au scénario, on a Mac Russell, que j'aime beaucoup et que je ne m'étais pas rendu compte de qui c'était avant que je finisse la BD et que son nom me ressaute au visage, parce qu'il a fait un comic qui s'appelle Presse, dont je vous avais parlé dans un précédent spécial bouquin, qui était déjà une BD de SF. Du coup, la SF, c'est un truc qu'il maîtrise au niveau esthétique et au niveau du contenu. Alors, c'est une BD qui repose énormément sur les tensions sociales, qui sont beaucoup mis en avant. On retrouve notamment de la discrimination, mais aussi de l'aliénation du pouvoir de la société et du travail. Et c'est le point central de l'œuvre. C'est de là où va partir, c'est de là d'où va partir tous les problèmes. Il y a aussi le fait qu'il y a un manque de discussion et de compréhension entre les peuples, c'est-à-dire les humains et les robots qui veulent pas exactement la même chose. Les humains se retrouvent un peu ici à ne plus rien faire, ils s'ennuient et pour eux c'est insupportable que les robots contrôlent tout. Et pour les robots, en fait, ils veulent juste de la reconnaissance parce qu'ils font tout, mais les humains les détestent. Et avec ça, on se dirige vers un récit extrêmement sombre. Et j'apprécie un autre point du livre, c'est notamment l'interview tout à la fin de Mac Russell qui explique son inspiration, et je trouve que ce qu'il dit est vraiment intéressant et particulièrement vendeur. D'ailleurs, je vais vous le lire. L'idée m'est venue en 2017 au cours du mouvement #MeToo, qui a mis le projecteur sur les abus que les hommes au pouvoir font subir aux femmes. Plus précisément, il m'est venu en observant la réaction discutable des #NotAllMen. Hormis le caractère absurde de ce genre de réaction qui équivaut à traiter le problème du carjacking en rappelant que tout le monde ne vole pas des voitures, j'ai été frappé de voir à quel point ce contre-mouvement se concentrait sur ses propres doléances au lieu de s'intéresser au vécu évoqué par les femmes. La plainte sous-jacente de beaucoup de ces hommes portait sur le fait qu'eux aussi se sentaient réduits à des objets, qu'eux aussi n'étaient globalement traités comme des marchandises par des détenteurs du pouvoir. Mais au lieu d'y voir une occasion de se jouer à la cause des femmes, il semblait dire que puisqu'ils acceptaient d'être maltraités, les femmes n'avaient qu'à faire pareil. C'est un point intéressant qui a inspiré du coup la création du truc. Et à partir de là, en fait, il va faire un comic qui parle au final de toutes les strates de la société qui touchent les différents âges et les différents regroupements sociaux pour parler au final de l'oppression de ceux qui l'acceptent, de ceux qui veulent s'y opposer et de ce qu'on peut faire face à ça. Alors, cette pépite se nomme Not All Robot. Elle est faite par Mark Russell, Mark Deodato Jr. et Lee Lujiv. Et si vous voulez la lire, allez chez le Lécours. De plus, c'est un one-shot, c'est-à-dire que vous avez l'histoire en une fois et en entier.
J'ai eu une certaine quantité d'idées à la con dans ma vie, mais il me semble que celle-ci a toujours été là, plus ou moins consciente. Vous allez vous demander ce qu'une jeune auteure comme moi fait dans un endroit pareil. Est-ce que j'ai vraiment voulu y rentrer pour écrire mon livre? Ou mon livre n'était qu'un prétexte?
Je vais sortir de la bande dessinée, Damien, et je vais vous parler. Alors, pas vraiment d'un ouvrage, je vais l'aborder rapidement, mais surtout de son adaptation cinématographique qui donc vient de sortir chez Réseau Film et distribué par ESC Distribution en DVD. C'est La Maison. Alors La Maison d'Emma Baker donc a été adaptée par Anissa Bonnefond. Alors La Maison d'Emma Baker, c'est un livre qui était paru, qui est disponible chez Flammarion, qui avait un peu, déclenché quelques polémiques parce qu'il était à la limite du gonzo journalisme, mais ça restait un livre, ça restait de la littérature, c'est-à-dire c'était l'histoire de Emma Baker, vraiment, qui était allée travailler dans un bordel à Berlin et qui avait retranscrit son vécu dans ce bordel. Donc je vais vous dire l'histoire, puisque c'est la même histoire que dans le film. Elle va travailler d'abord dans un bordel qui est un peu glauque, et puis suite à une mauvaise expérience avec un client, elle décide de changer et d'aller dans un autre bordel. Pendant ce temps-là, dans un autre bordel où elle va rencontrer plein de prostituées, de femmes, elle va, et c'est ce qu'il y a de plus réussi dans le livre, en fait, elle va, quand elle décrit le quotidien, les discussions qu'elles ont entre elles, les moments de tendresse qu'elles ont entre elles, et c'est ça qui est intéressant dans le livre, beaucoup plus en fait que l'aspect sexuel, même s'il y a des choses intéressantes aussi, puisqu'on découvre aussi ce qu'on savait, bien sûr, évidemment, mais l'aspect sociologique du travail de prostituées. Alors même si le livre était un poil trop long, et il avait des moments absolument brillants, brillantissimes, surtout dans la description des personnages et des situations, et des moments vraiment très très bien écrits, quoi, où il y avait une grande élégance, beaucoup de style en fait dans l'écriture d'Emma Baker. Alors est-ce qu'on allait retrouver ceci dans l'adaptation donc d'Anissa Bonnefond, disponible chez Réseau Film, distribué par ESC? Eh bien, j'ai envie de dire que le film d'Anissa Bonnefond, il est pas aussi marquant que le bouquin quand même quand il est arrivé, mais il a un peu les qualités et les défauts du livre d'Emma Baker. Anissa Bonnefond, on la connaît parce qu'elle avait réalisé le documentaire Wonder Boy, Olivier Rousteing né sous X, qui est un documentaire qui avait beaucoup fait parler de lui. Et là, elle décide avec La Maison de faire un film qui va vraiment jusqu'au bout de la démarche. C'est-à-dire qu'il y a les scènes érotiques sont quand même très crues. C'est, voilà, il y a de la nudité frontale pour les femmes, pour les hommes aussi. Voilà, des scènes qui pourraient choquer certains bien-pensants. Le film est littéralement porté par une Anna Girardot sensationnelle. Elle est extraordinaire. Elle joue divinement bien, ça on le savait déjà, mais là, elle n'hésite pas à faire don de sa personne. Hein, c'est vraiment le cas de le dire. Et dans cette maison dans ce bordel, elle est entourée d'actrices assez extraordinaire. On va retrouver Horatica, qui elle est une prostituée, qui est une dominatrice qu'on ne touche pas. On va découvrir Rossi de Palma, qui est la plus âgée du lot, évidemment, la plus exubérante. Il y aura Carol Weyers aussi. Il y a aussi Nikita Bellucci, hein, l'actrice porno, qui fait là un rôle, justement, qui n'est pas pornographique. Et... parallèlement, Emma va assumer complètement son appétence pour cette sexualité et elle va y prendre un certain plaisir, il faut bien le dire. Hein. C'est ça le sujet du film qui introduit le film et qui est conclu par un monologue en voix off qui appuie peut-être un peu trop le propos, mais qui est vraiment là. Alors, les scènes de sexe sont un peu désincarnées, mais c'est volontaire, c'est la vraie démarche, en fait, du film. Et c'est aussi très stylisé, très souvent, d'ailleurs, filmé dans des couleurs rougeoyantes, couleurs fétales, en fait, hein, de ces hommes qui viennent... le fameux « La maman et la putain », pour citer Jean Eustache, hein, voilà. Pas pour faire de la psychologie de bazar, parce que, pour le coup, c'est un film plus sur le désir féminin qu'autre chose. Elle assume pleinement ce qu'elle fait, et c'est ça qui est intéressant. Et comme dans le livre, en fait... l'accumulation des scènes de sexe et tout n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Ce qu'il y a de plus intéressant, c'est cette description, ce quotidien de ces femmes entre elles. En termes de mise en scène, il y a pour moi 3-4 choses très intéressantes. Tout d'abord, au départ, le film démarre par un plan un peu provocant avec un travelling arrière qui démarre. On entend en voix off ce que pense Anna Girardot. Et elle explique pourquoi du comment de son envie d'écrire un livre sur un bordel. Et quand le travelling arrière se termine, on voit qu'elle est en train de se faire besogner en fait par un client. Donc scène un peu provocatrice, mais tout le film comme ça est à la limite, mais sans jamais tomber dans la gratuité. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que les scènes érotiques soutiennent vraiment un propos. Il y a pas de... Ça, c'est assez intéressant. Ce qui est un peu plus loupé, c'est qu'elle essaye de faire un rapport à la sculpture, un rapport à l'art qui intervient lors d'une scène particulière de Anna avec son petit copain, enfin voilà, qui est joué par Lucas Eslander, d'ailleurs, qui jouait dans la série Parlement, l'insupportable allemand qui embêtait tout le monde. Voilà, pour ceux qui ont vu la série Parlement. Et là, en fait, ça, cette partie-là est un peu moins réussie. Elle se termine d'ailleurs par une évocation du sexe des femmes, du vagin des femmes, avec une succession de plans de vagin qui renvoie évidemment à Courbet et qui, en même temps, fait écho aux propos d'Emma Becker ou d'Anna Girardot dans le film. Donc voilà, qu'on entend au même moment en voix off. Mais c'est un final qui, même si c'est pas complètement réussi, qui est assez marquant quand même. Et puis il y a une scène, moi, qui... Alors là, c'est plus de l'ordre de se jouer des clichés de la part d'Anissa Bonnefond, et c'est plutôt bien vu. La première scène de sexe payante qui se déroule avec Anna Girardot est filmée en point of view, en fait, mais du point de vue de la femme. Ce qui est assez rigolo parce que c'est une manière de retourner ce cliché qu'on retrouve très souvent sur les sites pornographiques où le point of view est un genre en soi. On vous conseille La Maison, hein, qui est disponible chez Réseau Film, ESC Distribution, qui est donc un film très intéressant, on peut dire que c'est un film érotique, hein, d'ailleurs, hein, puisque c'est un vrai film sur le désir, avec beaucoup de scènes érotiques, et qui est un film, ma foi, qui détonne un peu dans la production, comment dire, classique française, où on a quand même un film de femme sur le désir féminin, c'est pas si souvent, donc... nous vous invitons à voir La Maison d'Anissa Bonnefond. Vous écoutez Culture Prohibée, spécial sortie bouquin. Thank you. On va maintenant conclure par une évocation de Kemp, volume 3. Kemp, volume 3, donc Soap, Opéra et Kemp Gay, paru chez Pierre-Julien Marest. Pierre-Julien Marest qui a eu la gentillesse de nous faire parvenir cet ouvrage magnifique. Et on va en parler avec son auteur, Pascal Français. Pascal Français qui était déjà venu parler des deux précédents volumes dans l'émission. Je vous ai déjà chroniqué l'ouvrage, donc vous savez tout le bien que j'en pense. Et maintenant, je vous invite à écouter donc, notre échange avec Pascal Français. Alors, on va tout de suite essayer de joindre Pascal par le biais de cet instrument magique qui est le téléphone du studio. On est dans les conditions du direct. Et donc, Pascal Français au micro de Culture Prohibée, donc l'auteur de Kemp, volume 3, Soap Opera et Kemp Gay, paru chez Marest, éditeur. Bonjour Pascal Français.
Bonjour. Bonjour Jérôme.
Alors, tu es donc de retour dans notre émission pour aborder Kemp, volume 3, Soap, Opéra et Kemp Gay. Alors, on avait déjà parlé des deux premiers volumes, hein, également parus chez Marest éditeur. À chaque fois, ils ont des préfaces fort sympathiques. Hein. Et là, la préface est signée Jean-Pierre Bouixou. Alors, Jean-Pierre Bouixou, ce vieux briscard qui a traîné dans pas mal d'entreprises et érotiques, mais de l'érotisme voyou, comme l'on aime, voilà, et de la pornographie de voyou aussi, avec même, je me souviens, de vieux magazines et tout ça, dont il assurait tous les rôles à l'intérieur sous différents pseudos, voilà, de choses très sympathiques. Et notre ami Jean-Pierre Bouixou, qui s'est vu aujourd'hui principalement dans ciné mensuel, fait une préface, alors comme souvent les préfaces, comme dans les deux autres volumes, hein, la préface est vraiment très chouette. Et y a deux choses, moi, qui m'ont marqué dans cette préface. Il y a d'abord le fait que lui, il parle d'une réappropriation aussi de mots qu'on a bannis parce qu'ils seraient des mots interdits aujourd'hui pour évoquer l'homosexualité. Qu'est-ce que tu penses de ça dans une époque où aujourd'hui, c'est vrai, on a l'impression parfois d'affronter une certaine forme de comment je pourrais dire ça, mais de sectarisme à l'envers, quoi.
Oui, bah, je suis entièrement d'accord avec lui là-dessus, et puis vraiment, bah, je remercie déjà beaucoup pour sa préface, mais il le sait que ça me tenait très à cœur qu'il participe au projet, au livre, et non, je suis entièrement d'accord avec lui là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de, finalement, de réactionnarisme à l'envers, dans le sens où on est tellement dans une époque où, justement, oui, certains termes ne peuvent plus être employés, même s'il y a une tradition dans les milieux homosexuels, qui étaient par exemple des termes comme PD, pédale ou ce genre de choses, on peut les employer entre soi, entre homosexuels, mais c'est très mal vu si c'est employé par d'autres. Donc je trouve que même maintenant, il n'y a même plus lieu que ce soit mal vu d'être employé par d'autres. On emploie le langage qu'on veut, surtout lorsque c'est employé par des personnes qui, comme Jean-Pierre, sont loin d'être homophobes ou réactionnaires et sont véritablement l'inverse de ça. Mais c'est sûr qu'encore une fois, on va revenir à ce terme du politiquement correct, mais qui nous étouffe terriblement. Et je crois que le Kemp, c'est exactement l'inverse de ça, quoi. C'est une espèce de liberté et une façon d'avoir une autodérision par rapport à sa sexualité, par rapport au cinéma qu'on aime, par rapport à tout d'ailleurs, par rapport aux attitudes sur la vie en général, savoir voir la vie, l'art et le sexe avec suffisamment de dérision. Voilà.
Il dit aussi autre chose, Jean-Pierre Bouixou, dans la préface de Kemp, volume 3. Là, tu es peut-être un peu moins d'accord avec lui. Il est un peu critique, je trouve, vis-à-vis de John Waters. On a l'impression que John Waters... Alors, toi, tu adores John Waters, et d'ailleurs, tu lui consacres toute une partie de l'ouvrage.
Il y a cette fameuse scène sur laquelle on discute tout le temps, tu sais, de la crotte de chien dans Pink Flamingos, et où il est persuadé que tout ça a été complètement bidouillé, qu'il y a eu un montage qui a été fait. Bon, c'est pas évident, je ne sais pas trop comment me situer, c'est possible ou pas, mais je crois qu'il a tendance peut-être à le considérer comme un metteur en scène qui a profité d'une certaine façon de son côté provocant et de son côté subversif pour ensuite entrer plus ou moins dans le rang. Moi, je considère pas que ce soit le cas. Je trouve que ses derniers films sont toujours aussi agressifs, mais dans un autre contexte, dans un autre milieu qui est plus celui du cinéma indépendant et underground des années 70, quoi. Bon, il a quand même réussi à introduire une vachement de subversion dans un cinéma de production hollywoodien traditionnel, quoi.
Moi, je partage plutôt son avis, Pascal. Voilà, je le dis. Alors, il y a aussi une grande partie de ce Kemp, volume 3, qui est consacrée à Edward Mitrick. Et moi, je t'avoue, là, j'ai été plutôt surpris qu'un des 10 d'Hollywood se retrouve dans ton étude, parce que est-ce que tu peux nous en dire plus? Bon, là, t'abordes surtout, en fait, tu parles surtout de ces grands films malades. Alors, il y en a deux que j'ai vus dans le tas, hein, Son Barbe Bleue, qui est quand même pas piqué des verres, comme dirait l'autre, et puis La Rue Chaude, qui, c'est vrai, est un film un peu à part. Mais c'est surprenant de retrouver. J'aurais pas rattaché moi Edward Mitrick au Kemp en fait.
Moi je le rattache vraiment par rapport à ses films, c'est-à-dire aux films qu'il a tournés durant cette période des années 60 à 70. Après pour le côté politique, je peux pas juger là-dessus parce que bon, c'est un disque Hollywood, il a dénoncé, paraît-il, certains de ses amis. Ses collègues communistes. Bon, tout ça, à vrai dire, ne m'intéresse pas des masses. Mais je trouve que vraiment, durant toute cette période des années 60, il a fait plusieurs films. Donc, tu citais Barbe Bleue, qui est quand même un film assez délirant, qui mélange à la fois le giallo, les films de nazis, la nazisploitation, le mélodrame, le conte de fées, enfin, tout y passe, quoi. C'est un mélange complet et complètement désinhibé, et assez fou. La Rue Chaude, en effet, et puis aussi Les Ambitieux, qui est un film sur le milieu de Hollywood, où tout est complètement excessif, où alors à la fois il désingue le système hollywoodien, le système de production, et avec des séquences absolument anthologiques. Donc voilà, mais ça m'intéresse beaucoup chez Dmitrik, c'est qu'il y a toute cette dimension très très noire qu'il a toujours eu dans son cinéma. Quand on pense à un film qui était consacré à un type terriblement misogyne qui tuait des bonnes femmes, une sorte de sniper en fait, L'Homme à l'affût.
Ouais. L'Homme à l'affût, c'est ça.
Voilà. Et il y a toujours cet aspect très très noir, mais qui va dans le sadisme assez souvent, et qui est complètement excessif. Il y avait déjà ça dans la première partie de sa carrière, mais en effet, dans les années 60-70, alors là, il se lâche complètement, quoi, intégralement. Donc moi, c'est ça qui m'intéressait beaucoup chez Dmitrik, qui est un metteur en scène dont on parle plus tellement, je veux dire, on peut pas dire qu'il soit encore tellement sous le feu des projecteurs de la critique, mais qui a une dimension vraiment noirissime et qui rejoint beaucoup de thématiques d'ailleurs actuelles, le regard sur la femme, sur le féminisme et tout ce genre de choses. Et je trouve que c'est un metteur en scène qui est vraiment d'actualité et qui est toujours quand même dans une forme de démesure, quoi.
Vous écoutez Pascal Français, auteur de Kemp, volume 3, Soap Opera et Kemp Gay, disponible chez Marais Éditeur, au micro de Culture Prohibée. Je vais reprendre les termes de ton ouvrage, hein, de Kemp, volume 3. Donc, tu parles de vénération des divas du mélodrame hollywoodien, qui est l'un donc des aspects les plus caractéristiques de la cinéphilie gay. Alors, il y en a plein, il y a Elizabeth Taylor, entre autres, évidemment. Si on pense mélodrague, on pense tout de suite à Elizabeth Taylor. Est-ce qu'il y en a une pour toi qui synthétiserait plus que toutes les autres cette figure de mélodrague? Voilà.
Alors, le mélodrague, pour moi, bon, d'une part, ce sont des mélodrames dans lesquels les personnages féminins principaux sont des transpositions, des alter ego, on va dire, de leur créateur. C'est-à-dire qu'ils se voient en femmes, et en général, c'était des scénaristes ou des écrivains gays, et il y a une espèce de transposition de leurs propres problèmes. Bon, il y a un film comme Le Visage du Plaisir de José Quintero, où très nettement, le personnage de Vivienne Leigh, c'est Tennessee Williams en femme. Donc là, c'est le côté drag, voilà, drag queen, enfin bon, un transfert de sexualité. Le personnage charrie tous les problèmes que Tennessee Williams avait à cette époque de sa vie. Après, s'il y a vraiment une actrice qui, pour moi, incarne ça merveilleusement, en tout cas dans la période, encore une fois, 60-70, bon, pour moi, l'absolu, c'est Betty Davis dans les années 40, mais dans cette période, c'est Lana Turner. Pour moi, vraiment, bon, là, c'est impeccable parce qu'il y a tout. Non seulement elle est dans une sorte de jeu, alors terriblement emphatique, même s'il ne se prête pas spécialement à l'imitation par les drag queens et tout ça, mais il y a quand même une emphase dans son jeu, il n'y a aucune retenue. Et puis aussi, sa vie, elle a quand même été quelque chose d'assez exceptionnel. Entre le meurtre de son amant par sa fille, les procès qu'elle a eus de toutes sortes, et tout ce qu'elle a charrié de scandales tout au cours de son existence. Bon, voilà. Et pour moi, c'est vraiment l'incarnation complète parce que elle y va, quoi. Dans le pathos, c'est vraiment quelqu'un qui n'hésite pas du tout à y aller, jusqu'à partir dans le ridicule absolu dans certains films que j'évoque dans le livre, films comme The Big Cube où elle joue une actrice de théâtre qui va se retirer et dont la fille et le beau-fils sont accros au LSD et ils vont essayer de la rendre folle en lui faisant consommer du LSD. Bon, ça part vraiment dans des délires complets. Par rapport à ta question, pour moi c'est Lana Turner qui est l'incarnation la plus vibrante à cette époque.
J'ai fait aussi, comme souvent, quand on lit tes livres, on fait des découvertes. Et là, j'étais encore plus surpris dans ce Kemp volume 3 de découvrir Pascal, parce que j'adore Delmer Daves, mais surtout ses westerns en fait, et de découvrir que Delmer Daves avait toute une partie de sa carrière qui était consacrée au mélodrame adolescent que tu développes dans ton ouvrage. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces mélodrames adolescents de Delmer Daves ?
Alors oui, avec plaisir. Ben, en fait, c'est une période entre 1959 et 1962 où Daves avait eu des gros problèmes cardiaques. Donc, il n'y avait plus personne qui voulait l'assurer au niveau des producteurs et de la production. Donc, on l'autorisait encore à tourner s'il abandonnait les films d'action, les westerns ou les polars dans lesquels il était habitué de travailler, quoi. Et donc, il fallait qu'il soit dans un contexte de studio, entouré de médecins et avec beaucoup moins de risques, parce qu'à l'époque, évidemment, les westerns se tournaient vraiment sur les lieux, quoi. Bon, avec des cascades qui n'étaient pas des effets numériques ou des choses comme ça, quoi. Donc, il risquait sa peau avec ses problèmes cardiaques. Donc, il s'est orienté vers le mélodrame adolescent. Parce que d'une part, bon bah à l'époque il fallait toucher un public adolescent, c'était les années 60, Hollywood essayait de viser le plus possible le seul public qui continuait un peu d'aller dans les salles, qui était les ados. Et en même temps le thème la thématique lui plaisait beaucoup. Il était beaucoup intéressé par les conflits de génération et tout ça. Donc il a fait 4 films avec un acteur qui s'appelait Troy Donahue, qui était le beau gosse de l'époque, l'idole des adolescentes. Enfin, c'est vraiment lui qui l'a quasiment sacralisé en tant que tel. Donc il a fait 4 films qui sont dans le domaine justement du mélodrame ou du film adolescent aussi, d'un excès complet. Alors les thèmes, c'est très vicieux, c'est très noir, il y a des scènes qui sont encore par moments un peu choquantes maintenant. Je pense à un film comme « Ils n'ont que 20 ans » où il est question du conflit entre une mère et sa fille qui est tombée amoureuse d'un jeune garçon, donc de Donahue. Et donc la mère, qui est une espèce de puribonde, une sorte d'inquisitrice, va carrément faire examiner sa gamine par un vieux médecin pervers pour voir si elle a couché, tout ça. Ça donne une scène qui est absolument délirante dans le cinéma de l'époque. Toutes les thématiques sont assez outrées dans ces 4 films de Daves où il se lâche complètement, quoi. Bon, il y a aussi dans Susan Slade, par exemple, une mère dont la fille, encore une fois, c'est toujours des questions de mère très, très marâtre, très méchante, une mère dont la fille a eu un bébé et alors qu'elle n'est pas mariée, et comme il faut le cacher à tout prix, la mère va faire croire que le bébé est d'elle, ce qui est complètement ridicule parce que nettement ménopausée, quoi, la mère. Et donc, elle va voler le bébé à sa fille en faisant croire que le bébé est d'elle parce qu'elle ne veut pas que la bonne société... Bon, donc tout ça, ça donne des thèmes assez, assez fous. Et ce sont des films qui sont peu aimés. Il y a dans le livre de Bertrand Tavernier, Ami américain, il y a une correspondance qui est reproduite entre Debs et Tavernier, où Tavernier, on sent bien que ça n'intéresse pas du tout ces films-là, qu'il trouve que bon, il a un peu de mal à lui dire, mais c'est pas bon, c'est pas ce qui lui plaît, c'est un peu de la guimauve. Et Debs défend vraiment ces films en disant je comprends que vous n'aimiez pas, mais moi je les accepte tout à fait. C'est vraiment des films qui sont d'un immense intérêt pour moi. Voilà, ce sont des films oubliés. Ça fait partie des choses que je voulais faire redécouvrir aux cinéphiles éventuellement. Quoi.
Ah bah écoute, c'est chose. Enfin, tu es arrivé à tes fins parce que là, donc dans ce, je rappelle, hein, Kem Volume 3, donc Soap Opera et Kem Gay, on est en compagnie de Pascal Français qui donc nous fait redécouvrir donc des filmographies ou des parties de filmographie oubliées. Et moi, du coup, cette partie de la filmographie de Delmer Daves, je vais m'y consacrer parce que j'aime beaucoup le Delmer Daves, réalisateur de western. Donc, j'ai très hâte de voir ces mélodrames, même s'ils ne plaisaient pas à l'illustre Bertrand Tavernier, je vais quand même les regarder, du coup, et je te remercie pour cette découverte. On parlera d'ailleurs, tout à l'heure, Pascal, de cinéaste, là, carrément, là, c'est pareil, dans ton livre, on apprend plein de choses, enfin bon, on va y revenir tout à l'heure. Je voulais aussi revenir en détail sur un film signé d'un réalisateur, d'ailleurs, que tu l'abordes dans le livre, hein, signé d'un réalisateur qu'on n'aurait pas imaginé à la tête d'un film comme celui-ci, le réalisateur de Zem, Des monstres attaquent la ville. Je vais bien sûr parler de Gordon Douglas. Ce film, c'est Arlo, la blonde platine. C'est un film que Gordon Douglas fait en 65. C'est un gros film, hein, avec, comment dire... avec Carole Baker qui après fera surtout une grande partie de sa carrière ensuite en Italie dans des gialli de machination, mais qui là est encore dans sa carrière américaine hollywoodienne et qui est donc là une biographie, enfin un biopic sur Jean Arlo, alors qui est un biopic en plus qui vient de ressortir en Blu-ray dans une belle copie chez Carlotta Film. Qu'est-ce que tu parles du film, hein, dans le livre, hein, en quoi ce film est camp pour toi, et puis surtout qu'est-ce que le film t'inspire, parce que bon, c'est vrai que le film est très intéressant, mais en même temps on se dit Gordon Douglas c'était peut-être pas la personne pour réaliser ce film là et surtout le film prend aussi pas mal de raccourcis, enfin, il évite de dire certaines vérités, puis surtout on n'a pas non plus tous les noms, véritables noms des protagonistes, tout ça, enfin, c'est un film, moi je trouve un peu étrange, qui est un peu à cheval entre le biopic classique et le film malade, ce qui en fait tout son intérêt d'ailleurs.
Oui, ben je pense que oui, son intérêt là, tout à fait. Bon, c'est un film qui tient absolument pas debout au niveau biographique, parce que évidemment, il fallait pas non plus aller trop loin dans la révélation des faces cachées de Jean Arlo. Mais moi, ce qui m'intéresse, enfin la dimension camp du film, puisque c'est ce que tu me demandais, encore une fois, je reviens là-dessus, c'est que il y a toujours cette dualité entre l'artificialité complète et le réalisme. Où est la réalité? Où est l'artifice? Où est le mensonge? Où est la vérité? Qu'est-ce qui est sincère? Qu'est-ce qui est fabriqué? Et donc là, c'est un film sur la fabrication d'une star. Voilà, sur la fabrication d'une femme qui va être utilisée de façon diverse et variée par les milieux des studios hollywoodiens. Et bon, à côté de ça, il y a des séquences dedans involontairement drôle quand même, bon, où là encore ça part tellement dans une sorte de noirceur ou de perversité sous-jacente, mais qui est quand même assez délirante. Et puis le casting est composé énormément d'actrices qui surjouent aussi. Il y a toute une dimension surjouée qui font partie donc de ces les métafilms, c'est-à-dire les films sur le milieu du cinéma, des films qui s'intéressent au milieu du cinéma. Et donc, il y a toute cette, ce côté paradoxal, cette dichotomie entre le, à la fois le monde artificiel du cinéma, la réalité de la vie de, des personnes, la construction d'une image, la construction d'une féminité qui est pas celle de Jean Harlow au départ, et puis, bon, ben voilà, toutes ces outrances scénaristiques qui parfois dérapent de façon assez succulente par moment, quoi.
Oui, parce que c'est un film qui a des côtés très trash, et puis de l'autre côté, des moments très moralistes aussi, quoi.
C'est véritablement, justement, toute cette dimension du métafilm, c'est-à-dire qu'à la fois, à l'époque, Hollywood voulait être trash pour attirer un nouveau public, mais en même temps, voulait rester... passer quand même le cap de la censure et voulait quand même rester dans une certaine décence. Donc ça fait des films complètement bancals où à la fois on est dans le mauvais goût absolu et dans un puritanisme très corseté et un côté de ne pas oser aller jusqu'au bout. Et c'est vraiment la politique du cul entre deux chaises, je crois, qui est vraiment symptomatique à la fois des films, de certains métafilms. D'autres sont nettement agressifs comme Le jour du fléau, dont je parle, de John Schlesinger, et d'autres sont quelque part un peu hypocrites parce que ça veut manger à tous les râteliers, quoi. C'est-à-dire ça veut choquer, ça veut avoir un côté d'exploitation, et en même temps, attention, parce qu'il ne faut pas aller trop loin, parce qu'il y a la censure qui est derrière et qui est en train de se relâcher, mais qui est quand même toujours présente, quoi.
Harlow, la blonde platine là, de Gordon Douglas, je rappelle qu'il est disponible donc chez Carlotta Film, mais c'est une expérience quand même de cinéphile. Alors, et c'est vrai, comme tu le dis, il y a Le jour du fléau de Schlesinger, mais qui est un film qu'on connaît plus déjà, mais qui est un... Là, pour le coup, pour moi, on est dans du grand film, quoi. C'est quelque chose de... C'est un film autre, Le jour du fléau.
Tout à fait. Là, on est vraiment... chez Schlesinger, on est vraiment dans du cinéma complètement pensé en même temps d'une radicalité par rapport justement à Hollywood et à ses artifices et à ces espèces de rêves perdus, parce que là on est dans un milieu de personnes qui veulent accéder à la gloire mais qui sans doute ne l'auront jamais, et des grouillots qui vont être un peu détruits, broyés par la machine hollywoodienne. Donc ça a été un peu le cas de Jean Harlow, sauf qu'elle a été quand même star pendant quelques années. Mais là, bon, chez Schlesinger, dans Le jour du fléau, on est vraiment dans la face totalement noire et putride et pourrie, en fait, du milieu hollywoodien, qui est présenté sans phare, alors absolument sans phare, quoi.
Écoutez Pascal Français au micro de Culture Prohibée.
La suite de l'ouvrage, donc Kemp, volume 3, soap opera et Kemp gay. Dans la suite de l'ouvrage, Pascal, tu abordes, moi j'aime beaucoup, il y a toute une partie sur le Kemp gay, et tu abordes le cinéma underground. Et c'est vrai que dans le cinéma underground, on connaît tous Andy Warhol, Paul Morrissey, Kenneth Anger, mais tu nous parles de réalisateurs qu'on connaît moins, voire que moi je ne connaissais pas du tout pour certains. Et je pense en particulier à Jack Smith, les frères Cushard et James Bidgood.
Pour parler des cinéastes en eux-mêmes, moi, ça a été un combat. Jack Smith, c'est une idole absolue dans les milieux du cinéma underground, parce que c'est lui qui a quand même inspiré Andy Warhol, qui a repris pas mal de ses idées, en particulier l'idée des superstars, de créer une espèce de studio comme ça, avec des personnes qui ramassaient dans la rue, dont il disait voilà, tu es une superstar et tu vas devenir une superstar. Et c'était un mec alors assez fou, pas facile, absolument pas facile à vivre, et qui tournait ses films de façon complètement aléatoire, avec... évidemment, comme beaucoup de metteurs en scène underground, 3 francs 6 sous, et qui s'engueulait avec tout le monde autour de lui, même ceux qui les défendaient, parce qu'il n'aimait pas qu'on défende ses films. Il voulait pas qu'on les critique, il voulait pas qu'on les défende non plus. C'était aussi un performeur, donc il retravaillait ses films sans arrêt, il les projetait en découpant, en les remontant lors de la projection. Il paraît que c'était un exercice absolument délirant, où, pour qu'il y ait toujours un film différent, que ce soit jamais le même. Bon. Et donc il y a ce film qui s'appelle Flaming Creatures, qui est un des classiques, mais alors absolu, du cinéma underground de l'époque. Et Smith, vraiment, c'est quelqu'un qu'il faut découvrir, c'est un super photographe aussi, un bon comédien, et son probablement, je dirais, la figure la plus influente dans le cinéma underground new-yorkais. Jonas Mekas, qui était le critique qui a promu un peu le cinéma underground de l'époque, le considérait comme le plus doué, et je pense qu'il avait raison. Et Smith détestait Mekas parce qu'il encensait ses films. C'était assez drôle. Alors, les frères Cuchard, là, c'est deux personnages absolument délirants, des frères jumeaux, homosexuels tous les deux, qui, à l'âge de 12 ou 13 ans, ont commencé à filmer des péplums, des films noirs, des films d'horreur ou des films de science-fiction, sur les toits de leur immeuble du Bronx, et sans aucun argent. Et puis ils ont continué à faire ça, puis ils se foutaient royalement, ils le faisaient pour eux c'était des home movies, on va dire. Et puis ils ont été repérés, encore une fois, par Jonas Mekas, ce critique du cinéma underground, qui les a fait entrer un peu dans le cercle du cinéma expérimental. Mais bon, j'avais aucune idée de notoriété, ils s'en fichaient royalement. Il y en a un des deux qui vit toujours, d'ailleurs. Mais ils s'en foutaient, ils avaient envie de faire leurs films comme ça, et puis de faire, avec des bouts de ficelle, des films d'horreur, des mélodrames, des trucs, des péplums, sans avoir rien du tout, aucun moyen. Et ça donne des œuvres. Bon, Georges Cuchard a continué jusqu'à la fin de sa vie à travailler avec l'université, je crois que c'était à San Francisco, je dis pas de bêtises, ou Los Angeles, et à faire des films avec ses élèves, des films complètement délirants, du genre, je sais pas, la femme dragon attaque le loup-garou, des trucs comme ça, et sans aucun argent. Donc voilà, et puis le troisième que tu citais, c'était James B. Goode, alors, qui lui a fait le film gay, sans doute le plus populaire à l'époque, Pink Narcissus, pardon, pas Pink Flamingo, ça c'est John Waters, un film d'un érotisme torride, qui pour moi est beaucoup plus kitsch que camp, parce que là on est un peu dans l'esthétique de Pierre et Gilles, des photographes qui font ces photographies avec beaucoup de couleurs, beaucoup de oui, vraiment un côté un peu kitsch, un peu iconique. C'est aussi un film, le seul film qu'il ait réalisé, qu'il a tourné chez lui, dans un tout petit appartement pendant des années, et en changeant sans arrêt, il pouvait pratiquement plus vivre chez lui, parce que tout était rempli d'ustensiles de décoration. C'est un film assez somptueux visuellement, mais tout ça a été filmé dans un tout petit appartement de New York dont il recréait les décors sans arrêt, quoi. Voilà.
Paradoxalement, en fin de compte, je trouve que la partie sur le porno est en fin de compte assez court, la partie sur le porno gay, parce qu'il y a, j'ai l'impression qu'assez peu d'auteurs de porno gay se sont emparés en fait de l'aspect camp dans leur cinéma.
Pourquoi il y a si peu de camp dans le cinéma porno de l'époque, donc des années 70, début, je crois, Poison in the Sand, c'est 71, parce qu'à l'époque, il y avait justement, on va revenir à ce qu'on disait au début, les revendications des droits civils, des droits civiques, par les homosexuels. Et donc, toute la dimension drag queen, toute la dimension efféminée, toute la dimension folle, folingue, devait être écarté et éloigné. Il fallait que le cinéma porno de l'époque soit présenté quasiment comme étant machiste.
Nous venons d'aborder en détail, donc, en compagnie de son auteur Pascal Français, cet ouvrage indispensable qui est Kemp, volume 3, Soap Opera et Kemp Gay, paru chez Marest Éditeur. Et Pascal, donc, il est temps de te demander, alors maintenant que ta grande œuvre a été publiée, hein, donc cette étude incroyable sur le Kemp, en 3 volumes, donc disponible chez Marest Éditeur. Maintenant, Pascal, sur quoi travailles-tu actuellement? Est-ce que dans les mois qui viennent, on va avoir le plaisir de lire des livres aussi passionnants signés de ta plume?
Alors, ce sera pas dans les mois qui viennent. Il va falloir attendre un petit peu. Parce que là, Là, je suis plutôt dans le travail de recherche, d'écriture, de contact. Mais oui, j'ai deux projets qui me tiennent très à cœur. L'un sur un cinéaste anglais qui a beaucoup travaillé aux États-Unis et qui est complètement... méprisé pour son travail aux États-Unis, mais complètement ignoré pour le travail qu'il a fait en Angleterre, où il a fait parmi les plus beaux films anglais des années 40-50. Et donc ça, c'est un truc qui me tient à cœur, c'est une réhabilitation d'un cinéaste, encore une fois, qui est connu, mais pas pour les bonnes causes, je pense. Et puis après, j'ai un autre livre sur lequel je travaille doucement, quand j'ai un peu de temps libre, qui s'intitulera sans doute « Mes salauds », avec un point d'exclamation, sur mes méchants préférés de l'histoire du cinéma.
C'est une chanson de tous les jours, une chanson qui parle beaucoup d'amour, une chanson qui veut crier au secours, mais qui ne le dit pas. Une chanson sur le désir de toi, une chanson sur la chair et la foi, le parfum de ta peau scélérat que je n'oublierai pas. C'est une chanson à fredonner, une chanson pour te faire respirer, l'atmosphère de ma chambre à coucher depuis que t'as dé. Une chanson que je chante tout bas, que je ne crie pas sur tous les toits. C'est un secret entre moi et moi, hélas entre moi et moi. Chanson assis flotter sous la douche.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demey dit La Bête Noire de Compiègne and The Last But Not The Least. Je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine.
C'est une chanson à fredonner, une chanson pour te faire regretter l'atmosphère de ma chambre à coucher depuis ta déserté. Une chanson que je garde pour moi, que je ne crie pas sur tous les toits. C'est un secret entre moi et moi, chérie, entre moi et moi. C'est une chanson de tous les jours, une chanson qui parle beaucoup d'amour, une chanson pour te dire je t'aime toujours, je t'ai dans la peau, salaud.